France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, une émission consacrée aux femmes de Judée, ce territoire à la fois géographique et mythique, berceau de mémoires entremêlées, où les drames d'hier résonnent encore dans les fractures d'aujourd'hui. Trois livres, plusieurs époques pour raconter ces femmes que l'histoire a éprouvées, celles que les guerres dispersent, que les violences condamnent, que la mémoire menace d'effacer.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous ferons d'abord un tour du côté de la Judée antique avec Nathalie Cohen, romancière agrégée de lettres classiques. Dans son roman historique L'or de Jérusalem, paru chez Flammarion, elle nous plonge en l'an 66, au moment où la révolte gronde et où le temple de Jérusalem est en passe d'être détruit. Au cœur du roman, Gaïa, une vestale romaine qui transgresse les règles, se tourne vers le judaïsme et affronte la brutalité d'un monde d'hommes, de croyances, de pouvoir. En racontant cette Judée déchirée, Nathalie Cohen éclaire notre présent, les fractures identitaires, les sièges, les guerres de récits, les peuples qui se déchirent autour d'un même territoire. Puis nous recevrons Jad Hilal, écrivain franco-palestino-libanais et professeur de lettres. Son roman « Des ailes au loin » paru aux éditions Elizade fait entendre quatre générations de femmes palestiniennes, de Haïfa à Beyrouth, de la Nakba à aujourd'hui. Elles traversent les guerres, les exils, les déplacements. Elles portent des langues, des souvenirs, des peurs. Avec elles, Jad Hilal raconte la géographie mouvante de l'exil palestinien, une terre qui change de nom, de frontière, mais qui se transmet de mère en fille quand tout se dérobe autour. Enfin, nous accueillerons Maya Brahmi, romancière, journaliste, photographe, dont l'œuvre explore depuis longtemps les voix féminines. Dans Jusqu'à sentir le battre leur cœur, publié le mois dernier aux éditions de l'Observatoire, elle redonne visage et dignité aux femmes israéliennes assassinées dans les attaques de l'automne 2023. Son texte, entre hommage et veille funèbre, rappelle combien les femmes sont en première ligne des violences au Proche-Orient, qu'elles soient palestiniennes, israéliennes, antiques ou contemporaines, et combien la littérature peut et doit s'opposer à leur effacement. Trois livres, trois écritures, trois temporalités, mais un même geste, chercher ce que l'histoire avec un grand H fait aux femmes et ce que la littérature peut faire pour elles en retour. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Nathalie Cohen, Maya Brahmi, Jad Hilal, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Lilia. Bonjour.
Alors, on n'est pas dans une émission de débat. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment l'histoire est faite de récits, composée de récits, et donc d'en parler avec des écrivains. Vos livres, à vous trois, résonnent avec une actualité qui, hélas, ne cesse de se répéter. Une actualité au Proche-Orient, faite de guerre, de deuil, de versions qui s'affrontent, se confrontent. Que peut et que doit la littérature dans tout ça, Maya Brahmi ?
C'est une très belle question. Pour moi, elle est là par nécessité, pour dire, pour faire voir, pour mettre en lumière et pour faire justice, dans mon cas, avec ce livre.
Et Nathalie Cohen, quelle place pour la littérature dans ce contexte ?
Alors, la littérature permet de donner toute la complexité de ce dont on parle. Parce que très souvent, dans la conversation, dans un essai, on est obligé de catégoriser. Tandis que par le biais de la littérature, on peut rentrer dans la peau de certains personnages et être justement dans le contradictoire. Et c'est le contradictoire qui nous caractérise.
Et pour vous, Jad Hilal ?
Pour moi, la littérature est, humanise ce qui est constamment déshumanisé. Je pense notamment effectivement à la situation en Palestine où ce qu'on entend relève habituellement des chiffres et d'expressions tout à fait déshumanisantes comme des flux, comme des crises, des termes très conceptuels qui détruisent l'humain derrière. Et en racontant des histoires individuelles, on dit que derrière chacun de ces chiffres, il y a une vie. Et que, peu importe ce qu'on pense, elle mérite d'être sauvée. J'ai cette formule, moi, que j'aime bien en ce moment, c'est... je pense que la littérature multiplie au lieu d'additionner. Elle montre que chaque personne qui est décédée était un.
C'est un peu la même démarche que vous, Maya Brahmi.
Oui, c'est-à-dire que la littérature, elle fait mémoire. D'ailleurs, c'est pour ça que je tenais à... C'est aussi un questionnement sur la mémoire. Est-ce qu'on peut faire mémoire ? Qu'est-ce qu'on se souvient ? Et est-ce qu'on se souviendra même de ce qui se passe depuis 2 ans ? C'est pour ça que je tenais à nommer chacune des victimes dans mon cas à la fin. Voilà. Parce qu'effectivement, elles étaient uniques, chacune avait un nom.
J'ai vraiment envie qu'on s'intéresse à la manière dont le réel vient percuter la littérature, Nathalie Cohen. Pendant l'écriture de votre livre, il y a eu le 7 octobre,
oui.
Que vous qualifiez de violente rupture anthropologique.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes posé la question d'aller au bout de votre roman historique ? Qu'est-ce que ça a modifié dans l'écriture ?
Alors en fait, quand le 7 octobre est arrivé, mon héros cherchait son enfant roux qui lui avait été enlevé dans une Jérusalem en ruine. Alors évidemment, je me suis posé une question qui n'était pas du tout une question rationnelle. Je me suis dit, tu as voulu retourner dans cet épisode qui était cet épisode fondateur et extrêmement douloureux, qui est la destruction de Jérusalem et la destruction d'une grande partie des Juifs. Flavius Joseph parle d'un million de morts. Tu as voulu y retourner et en y retournant, tu as induit quelque chose. J'avais l'impression d'avoir induit ce massacre.
La fiction est créatrice ?
J'ai eu cette impression qu'en convoquant cette histoire, qui est une histoire que bon, les gens ne connaissent pas forcément, mais cette histoire qui est une histoire traumatique pour le peuple juif, mais pas que, hein, parce que pour les Romains également quand même, eh bien, j'avais relancé ça. Donc, et puis, effectivement, cette rupture anthropologique à laquelle personne ne s'attendait vraiment m'a profondément touchée, m'a fait regarder le plafond. Et j'avais l'impression que l'horreur de ce qui se passait était au-dessus de ce que je racontais, ce qui est faux.
Et dans la réception de votre livre, Nathalie Cohen, est-ce que c'est plus compliqué d'être invitée dans les médias avec un livre sur Jérusalem aujourd'hui ?
Oui, pourtant c'est Jérusalem au 1er siècle, mais j'ai vraiment senti, et ça je ne veux pas être parano, mais ça gêne les gens parce que justement je les renvoie à une complexité, à une mémoire, qui n'ont pas forcément envie d'avoir parce que l'esprit a besoin de simplifier les choses. L'esprit est manichéen.
Et pourtant, on a besoin de pédagogie en ce moment.
On a hyper besoin de pédagogie et je pense que le roman est une bonne solution, comme disait Jade. Mais ce qu'il se passe, c'est que quand vous connaissez, vous reconnaissez. Et il y a quelque part dans l'esprit, hein, l'esprit du temps, une volonté de ne pas connaître pour éviter de reconnaître et donc de s'encombrer l'esprit avec choses...
Avec plus de complexité. Voilà. Jadilal, vous avez ressenti la même chose. Vous, est-ce que vous avez souffert d'avoir été invitée aussi comme porte-voix peut-être d'une cause ? Comment vous avez vécu cette période ?
Oui, je partage ce constat et je réfléchissais en fait à l'idée de honte. Et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Il y a tout un panel de mécanismes qu'on peut avoir d'aveuglement volontaire par rapport à une situation comme celle-là. À la souffrance évidente, par exemple une fille qui meurt sous des bombes, qu'elle soit palestinienne, israélienne, c'est pas un point de vue politique en fait, c'est un point de vue humain. Voilà.
Humain, oui.
Mais pour s'empêcher de penser à ça et d'en être touché, je trouve qu'il y a tout un arsenal en fait de réactions possibles, dont voilà, l'amnésie par exemple. L'ensauvagement de certaines populations pour voilà, refuser de comprendre des contextes, etc. Et la honte. Et je trouve qu'on devrait tous avoir honte, en fait, de ce qui est en train de se produire. Mais on peut s'empêcher de ressentir de la honte, alors qu'elle est toujours là, elle reste, mais on peut s'empêcher de la ressentir, en se disant que c'est politique. Et ici, en l'occurrence, ça n'est pas politique.
C'est fou de devoir rappeler que c'est une question d'humanité partagée.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est la littérature qui le permet. Quand on lit un texte et qu'on lit un récit de vie, on peut avoir un horizon socio-culturel, politique, économique très différent du personnage qu'on va lire, mais on ne ferme pas le livre. On est toujours en ouverture par rapport à un récit de vie.
Maïa Brahmi, votre livre à vous est né du 7 octobre.
Oui.
C'est une sorte de crise, un livre très violent. Très, très puissant, un livre qui mêle des images du massacre à des moments de vie plus personnels, à votre histoire familiale, une histoire marquée par les pogroms, la Shoah. Est-ce que vous vous êtes posé la question du recul émotionnel où il vous fallait écrire dans l'urgence ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux, ma consoeur et mon confrère disent ici, c'est-à-dire que tout ce livre, c'est une tentative de ramener les gens à leur humanité par-delà les discours manichéen, le blanc, le noir, le blond, le bon, le mauvais, c'est essayer d'entrer au cœur de l'humain. Et c'est pour ça que le livre s'appelle, n'est-ce pas, Jusqu'à sentir battre leur cœur. C'est le cœur de qui ? C'est le cœur des femmes. Au départ, ce sont ces 320 femmes qui ont été massacrées et violées de la pire des manières. Et j'extrapole tout au long du texte. Je réfléchis en fait à la condition des femmes et pourquoi les femmes sont invisibilisées depuis toujours. Il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas vu ces femmes. Pourtant, on n'a jamais autant documenté un massacre. Ça a été filmé par les assassins eux-mêmes. Pourquoi on n'a pas voulu voir et pourquoi il n'y a pas d'empathie ? Le 8 octobre, j'ai allumé ma radio, j'ai lu la presse, je n'ai pas entendu ce que j'attendais d'entendre. Je n'ai pas eu de fait. C'est-à-dire que tout a été biaisé directement. Ça a été d'une telle violence pour moi que pour pouvoir continuer à vivre et regarder ma fille dans les yeux, je me suis dit, je dois montrer ce qui s'est passé, je dois faire justice à ces femmes, je dois écrire un texte qui touche, qui soit factuel, qui prouve des choses. Ça, c'est mon côté journaliste, mais qui prenne les gens par la langue, par le style, et qui leur permette d'être en empathie avec ces femmes et ces Israéliennes qui, avant tout, étaient des femmes.
Effectivement, on a oublié que c'était des femmes et des êtres humains. En tout cas, pour une partie, on a eu le sentiment, Jadilal, et ça a été le cas à plusieurs reprises ces derniers mois, qu'effectivement, la politique passait avant et que ce qui primait, c'était de devoir choisir un camp. Et peu importe les hommes, les femmes, peu importe l'humanité.
Tout à fait. Quand on parle de ça, de ces trajectoires individuelles, très vite... J'ai senti, mais même avant le 7 octobre, hein, à chaque fois qu'on parlait de la Palestine et que je disais qu'il y avait eu tel ou tel nombre de morts, très vite on disait « oui, mais le Hamas, oui, mais la situation politique, oui, oui, mais l'humanitaire, etc. » Et en fait, je trouve que...
il y a des « oui, mais » des deux côtés
voilà.
Tout le temps.
Oui, mais dans tous les cas, si on n'accueille pas en fait, la gravité du moment, le problème humain et la douleur humaine, on risque de ne pas comprendre en fait, ce qui se produit réellement.
Excusez-moi de vous couper, mais ce qui est très intéressant dans ce qu'il dit, enfin ce qui est très juste dans ce que tu dis, dans ce que vous dites, dans ce que tu dis, par-delà les mots on peut se tutoyer, c'est aussi que ça rapproche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte l'émotion, la sensation et la douleur, on se rapproche de l'autre. Et donc on rapproche les Palestiniens, les Israéliens, les Soudanais, les Iraniens,
les Ukrainiens.
Et voilà, c'est ça qui est important. C'est en ça qu'un écrivain et la littérature comptent, et certainement en ce moment.
En fait, ce qui est fou en lisant vos livres, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y avait des scènes en miroir. Il y avait beaucoup de points communs, en fait. Je pouvais suivre l'histoire de 4 générations de femmes palestiniennes, lire le livre de Nathalie Cohen qui se passe au 1er siècle, et votre livre, Maya Brami, sur la souffrance de ces femmes massacrées. Et en fait, il y avait des scènes en écho tout le temps. Et au fond, effectivement, oui, on parle de femmes et d'humanité. Nathalie Cohen, Maya Brami, Jadilal, on se retrouve dans quelques instants pour parler plus en détail de vos livres. Mais avant ça, on écoute Marguerite, Les avions.
On savait que c'était fini, on est quand même partis dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus jolis? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide, jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel? Faire une croix sur le futur. À deux, chez moi c'est pas bien rangé. Dans le poulet seul les clés. Plus de traces sur l'oreiller. C'est mieux. Et puis faut que je te rende tes fringues. Ce sera la dernière étreinte. Je ferme la porte et je me blinde. Adieu, la musique était jolie. Mais le texte mal écrit. Des fausses notes dans la partie. Et ne tombe jamais. Est-ce qu'il y a turbulence.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Nathalie Cohen, Maya Brami et Jade Hilal. Nathalie Cohen, dans L'Or de Jérusalem, on rencontre dès les premières pages Gaia Cornelia, une vestale en fuite. Pour quitter Rome, elle se fait passer pour une victime de la peste et est transportée dans un cercueil. C'est la, une des premières scènes, la scène d'ouverture oui. qui est saisissante. Et on se demande comment elle va pouvoir s'en sortir. Mm-hmm. Très vite, on découvre la raison de cette fuite. Gaïa a eu un enfant, ce qui, pour une vestale tenue à la chasteté, est un sacrilège puni de mort. Elle risque d'être emmurée vivante. Elle fuit donc Rome pour rejoindre la Judée et retrouver ainsi son fils, Alexander, et un homme, Marcus, dont on se demande s'il est le vrai père de l'enfant, mais j'en dirai pas plus. C'était quoi le point de départ de ce livre, Nathalie Cohen ?
Alors, c'était de transmettre au départ, hein, le roman historique, c'est un peu, mais pas que le roman historique, de la littérature de contrebande. C'est-à-dire qu'on a envie de transmettre une époque et dans toute sa complexité, et passer par le roman historique, ce premier siècle où tout s'est joué, où en fait, dans l'Empire romain, une personne sur six, une personne sur dix judaïsée, etc. Ce judéo-christianisme, bon, il prend naissance là-dedans, dans cette époque. Donc j'avais envie de la transmettre. Donc Gaïa, c'est une femme qui va être attirée par le message moral du judaïsme, qui va se convertir au judaïsme et qui va aussi devenir proto-chrétienne, etc. Et puis, je me suis rendu compte que le point de départ, c'était ça, mais que dans ce texte, j'exprime cette violence qui est une violence ancestrale faite aux femmes. Et donc, ce texte, il est aussi ça.
Chaque semaine dans l'émission, nous avons des libraires francophones et je vous propose de rejoindre le Québec où nous retrouvons Mike Viennot de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour.
L'Or de Jérusalem vous a passionné Mike?
Oui, Lilia, on plonge dans ce polar historique avec beaucoup de curiosité. La guerre de Rome contre les Juifs en Judée, la vraie nature de Néron, la position d'une vestale. Oui, bien sûr, on en sait un peu de tout ceci, un peu par-ci, un peu par-là, mais vous arrivez à tout remettre en ordre et en lumière dans un récit historique bien mené et qui met l'accent sur une situation encore actuelle, la guerre contre les Juifs, et sur une situation plus large, la cupidité de certains qui poussent à anéantir les autres. Encore ici, le corps de la femme est considéré comme un objet de transaction, sinon littéralement de contrôle. Et on voit d'hier à aujourd'hui comment rien ne change, comment la médisance perdure et l'humanité se fracture. On lit votre roman comme un témoignage du passé, tout autant qu'on aborde l'histoire avec la truculence de l'énigme. Il faut savoir être concentré, bien situer les personnages, replacer les enjeux, mais vous rendez fascinante cette partie de l'histoire et surtout, vous nous rappelez que cette histoire, avec un grand H a souvent besoin des histoires avec un petit H pour être conservé. Et vous nous rappelez qu'au-delà de cette triste cupidité des hommes, l'or se cache au creux des peuples et cet or devrait être partagé parmi toutes et tous pour qu'il brille uniformément.
Et vous aviez une question, Mike.
Oui, faire un roman historique, Nathalie Cohen, c'est devoir s'assurer de l'exactitude des faits et des dates. Ici, le sujet pourrait se confondre beaucoup avec les temps actuels. Comment avez-vous abordé l'écriture pour demeurer dans le passé, dans les années 60, après Jésus-Christ, de la Rome impérialiste, tout en intégrant une certaine actualité étonnamment flagrante?
L'histoire bégaye, on le sait. Et donc, dès qu'on fait un roman ou qu'un réalisateur fait un film historique, forcément, il relie l'histoire avec un écho avec sa propre période. Par exemple, si je prends les péplums américains, vous allez avoir des esclaves qui vont être noirs. Et c'est normal. Alors, il y a très peu d'esclaves noirs dans l'Antiquité, c'est plutôt des slaves, hein, des blonds aux yeux bleus, mais c'est pas grave. En fait, ça se fait de façon spontanée. Comprendre cette chute du Temple de Jérusalem, c'est comprendre comment le judaïsme rabbinique s'est formé d'un côté, le christianisme de l'autre, et c'est aussi une clé de voûte, hein, cette centralité de Jérusalem, d'explication de l'époque actuelle. Donc ça s'est fait un peu spontanément, voilà.
Vos trois livres, Nathalie Cohen, Jade Hilal et Maya Brami, ont un point commun atroce, c'est la question du viol féminin. Chez vous, Nathalie Cohen, l'empereur Néron viole votre héroïne en disant vouloir pénétrer les choses sacrées de l'intérieur, donc c'est une sorte de viol politique. Chez vous, Jade Hilal, il est aussi question d'un viol qui ne dit pas son nom, puisque c'est un viol au sens plus traditionnel, on est dans les années 40. Vous écrivez « On m'a prise, on m'a emmenée chez Jaïd qui m'a aussitôt mise dans son lit. J'avais 12 ans, il en avait 21. Un cas classique d'inversion numérique. À 12 ans, j'ai quitté l'enfance, je suis devenue une femme. Et chez vous, Maya Brahmi, c'est le 7 octobre sous forme du viol de masse, du viol comme arme de guerre. D'où ma question, pourquoi siècle après siècle, guerre après guerre, c'est toujours sur le corps des femmes que s'exerce la plus grande violence, Maya Brahmi?
C'est un petit peu tout mon texte qui essaye d'y répondre, j'essaye de m'éclairer moi-même. C'est un texte qui est écrit à la deuxième personne du singulier, donc je me parle autant que je parle au futur lecteur. Je pense que quand on détruit une femme, on détruit l'humain, on détruit l'humanité, on détruit les générations futures, on détruit la culture. Je pense que quand on viole une femme, ce qui est terrifiant, mais en même temps si pratique, c'est que ça ne coûte rien. C'est une des armes les moins coûteuses qui existent, et donc c'est pour ça que ça continue à perdurer. C'est aussi des violences qui ne se voient pas, parce que les femmes ont tendance, ou elles vont mourir, elles ne pourront plus rien dire, ou alors elles ont tendance à avoir le besoin de se laver, et il n'y aura plus de preuves, et ça reste à l'intérieur de leur corps, et c'est à elles de faire preuve. Et la preuve, s'il n'y a pas d'enfant à naître, il n'y aura pas de preuve. Par contre, elles sont détruites jusqu'à la 10e génération.
Chez vous, Nathalie Cohen, il y a justement un enfant à naître. Un enfant qui est même né.
Oui. Alors, il y a une psychanalyste qui a lu le roman et qui m'a dit, avec cet enfant qui naît et à qui tu vas donner un destin, tu veux réparer le viol. Il y a cette volonté réparatrice et inconsciente de réparer la violence. Mais bon, cette violence faite aux femmes, c'est cette violence faite à la génération, c'est cette violence faite à un peuple aussi. Hein. Donc, moi, dans le cas de Gaïa, il y a quelque chose de réparateur et tout le déploiement du roman va être réparateur. C'est horrible de dire ça, mais ce qui s'est passé le 7 octobre, ce sont des viols qui peut-être n'ont rien à voir avec celui de Néron.
Voilà. Mais ils ont à voir avec l'histoire.
Ils ont
à voir
avec
justement,
l'histoire.
En allant chercher, moi, dans le passé de ma famille, en Galicie, en Europe de l'Est, au début du XXe siècle, je me suis mis à lire des travaux, notamment d'une historienne russe qui a travaillé sur une période précise de l'histoire au début XXe, où les pogroms se sont mis à se généraliser. C'est-à-dire qu'on a joué sur les mots, on a joué aussi sur le mot pogrom. Donc dans le livre, j'ai la définition du mot pogrom, qui a été inventée pour le massacre,
en fait.
C'est pour la destruction, la destruction du peuple juif. Donc je suis allée juste chercher et comprendre. Et il y a eu une période, au début du XXe siècle, où les pogroms se sont généralisés, c'était pas juste de temps en temps, et où l'armée rouge laissait place à l'armée blanche, qui laissait place aux cosaques, etc., ça n'arrêtait pas, et où on s'est mis à mettre en scène, à théâtraliser la souffrance, le viol des femmes juives en place publique. Et à ce moment-là, on a pu dire qu'il y avait une volonté génocidaire de détruire la population juive. Or, en lisant les transcriptions de tortures faites, je peux vous dire que ce sont exactement les mêmes qui ont eu lieu le 7 octobre. Et là, non seulement ça m'a horrifié, mais je me suis dit qu'il était extrêmement important que ce soit écrit. Ce soit écrit et j'avais effectivement cette impression de répétition tragique de l'histoire.
Tout l'important, c'est
d'être dans une boucle en fait,
avec destruction de l'appareil génital. Donc
absolument,
au moment de l'armée,
non mais les mêmes. C'est-à-dire couper
ça.
Les seins.
Voilà, c'est ça.
Non mais absolument tout. Et je décris tout et je montre tout pour que ce soit dit, ce soit écrit et qu'on sache.
C'est un livre
extrêmement important pour moi.
Jadilal, est-ce que vous constatez, vous aussi, cette répétition guerre après guerre? Vous avez travaillé sur 4 générations de femmes. Je parlais du viol presque traditionnel tout à l'heure. Je vous pose la même question. Pourquoi? Pourquoi le corps des femmes est toujours instrumentalisé de cette manière?
Je pense que ce qu'il y a de systématique, malheureusement, c'est qu'elle paye le prix pour les autres. C'est ça l'ennui, et c'est qu'elles n'ont jamais elles-mêmes fait, elles ne font que rarement, enfin voilà, faire payer le prix à d'autres. Elles sont tout en bas de la chaîne de la souffrance, en fait. C'est ça qui est catastrophique. Que moi j'ai constaté, par exemple, dans mon texte avec le viol du personnage dont vous parlez. En fait, l'idée, c'est que, bien sûr, alors, expliquer n'est pas justifié, hein, bien sûr. Il y a tout un contexte, tout un faisceau de barbarie qui se produit dans un contexte particulier. Là, c'est le cas, par exemple, en Palestine, dans cette famille-là, où le personnage de l'homme est lui-même maltraité par un contexte lié à d'Israéliens qui sont barbares envers les Palestiniens en 48. Maltraité également par sa famille, qui refuse qu'il épouse une Israélienne dont il est amoureux. Une juive, en fait, à cette époque, dont il est amoureux, et qui le force à épouser une gamine de 12 ans, parce qu'elle a de l'argent, sa famille a de l'argent, et qu'elle est palestinienne. Et donc, en fait, de cette souffrance, il en vient à violer. Alors, évidemment que c'est absolument condamnable.
En fait, c'est des cycles de souffrance qui arrivent jusqu'aux femmes, voilà. Parce que c'est le bout de la chaîne.
Et c'est le bout de la chaîne, voilà, exactement. Et c'est là où c'est catastrophique, parce que la violence, elle n'est pas justifiée en disant ça, mais elle ne vient pas de nulle part, c'est ça que je veux dire.
Nathalie Cohen, Maya Brahmi et Jadilal, on se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Camille et Yael Naïm à Welcome Till. Et nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Cohen, Maya Brahmi et Jad Hilal. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Maya Brahmi, j'aimerais qu'on parle de fiction. Et pour ça, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de votre livre ?
Avec plaisir. Je vais essayer de faire ça au mieux. Dans ce livre, la fiction n'a pas sa place. La fiction, tu l'entends chaque jour dans la bouche des gens, tu la lis depuis 4 mois dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et pour toi, écrivaine, depuis le 7 octobre, imaginer n'est plus possible. aspiré de l'intérieur, vidé de ta substance, tu es dos à un précipice vertigineux deux fois millénaire, cinq fois pour ton peuple, semblable à ces abîmes qui sculptent le Négève. Pire, la fiction est désormais une injure aux 1200 corps dépecés, aux otages retenus en enfer, à tes grands-parents qui en étaient revenus, et à toutes les victimes de crimes raciaux passés, présents et futurs. Tu n'iras pas te cacher derrière des personnages pour émouvoir les lecteurs. Et pourtant, tu sais qu'il ne peut être question de rien d'autre. Émouvoir. Condition sine qua non, qu'il faut réussir un véritable échange de regards avec le lecteur, pour que ce dernier tourne la page et accepte de se mettre en danger en ébranlant ses certitudes.
Imaginer n'est plus possible. Cette phrase, elle questionne et elle résonne. Moi, elle m'a fait penser à tous ces artistes qui se sont posé la question, notamment après la Shoah, de la fiction. Je pensais notamment à Claude Lanzmann, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est quoi votre point de vue là-dessus, Nathalie Cohen ?
Alors la pensée de Lanzmann après la Shoah, c'est qu'on ne pouvait parler de la Shoah qu'en tournant le film Shoah, donc de façon obsessionnelle, etc. Il a élu un seul film qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est Le Fils de Saül. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a dit ça, c'est la Shoah. Et donc effectivement, il y a un problème. À quel point la fiction peut rendre l'horreur, à quel point la fiction peut se rapprocher de la réalité. Pour traiter de ce qui s'est passé, effectivement, pour traiter du 7 octobre, le 7 octobre est trop présent pour pouvoir donner lieu à de la fiction.
Mais est-ce que c'est qu'une question de temporalité
C'est en partie une question de temporalité. Même si la fiction a d'autres pouvoirs, mais elle ne se rapprochera jamais de l'instant et de l'horreur qui a été vécue par la personne. C'est-à-dire que quand les gens rentraient des camps, on disait les muets parlent aux sourds. C'est-à-dire que personne ne peut se rendre compte de l'intensité avec laquelle l'autre a vécu ou a enduré, sauf la personne. La fiction peut s'en rapprocher. Mais pour le moment, pour le 7 octobre, comprendre Maya et je peux vraiment comprendre son refus de la fiction.
Maya Brahmi, c'est une question de temporalité pour vous ?
C'est ce qui s'est imposé à moi, puisque je n'ai pas... pour moi, cette histoire de faire de la fiction, si vous voulez, moi j'ai abordé différemment, c'est-à-dire que je me suis dit non, je ne ferai pas fiction, je ferai preuve et je vais plutôt utiliser la poésie, je vais utiliser la langue, je vais essayer de faire ressentir justement la souffrance, le corps de la femme, et je ne vais rien laisser dans l'ombre. Je vais forcer les gens à voir et à ressentir, mais je vais essayer non plus de ne pas les faire fuir. Je vais essayer de les rassembler. J'aimerais que des non-juifs puissent me lire. J'aimerais que tout le monde puisse me lire. J'aimerais rapprocher les gens.
À la question, vous avez peur de parler ? Oui. Il y a cette phrase très belle : je parle parce que j'ai peur.
Oui. Je parle parce que j'ai peur. J'ai eu peur tout le temps. J'avais le ventre noué. Mais en même temps, on parlait de courage tout à l'heure. Quel est mon courage face aux otages dans les tunnels, à ces femmes, à ces gens qui ont réussi à combattre à sauver. Je veux dire, dans ma propre famille, le cousin de mon mari a reçu l'appel de sa fille à 6h du matin qui lui disait au revoir. Elle était au Festival Nova. Elle a dit au revoir à ses parents. Et il a dit « j'arrive », il a fait 3 heures de route, il est arrivé, et il a réussi à la sauver à certaines de ses amies. Je veux dire, la souffrance ressentie par les Palestiniens, les Palestiniennes et les enfants sous les bombes est terrifiante. Donc si tu veux, ce courage, je me devais.
Ce qui est fou, c'est
je me devais de l'avoir. Il est tellement petit par rapport aux gens sur place qui vivent ça.
Et pourtant, c'est difficile de publier un texte comme celui-ci en France aujourd'hui.
Ben, il semblerait. Et j'aimerais qu'on en parle. Et grâce à vous, on en parle. C'est merveilleux.
Vous, Jade Hilal, vous ouvrez votre livre par cette phrase qui résonne avec ce qu'on vient de dire. Les personnages et leurs fictions sont réactifs. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est une contrepétrie au départ, c'était plus pour
oui, mais c'est
pour dire qu'il était fictif. Mais en fait, si vous voulez, c'est l'histoire de la Palestine que je connais depuis bien avant le 7 octobre, c'est une histoire dans laquelle j'ai constaté assez régulièrement que il manquait une reconnaissance du cas palestinien, en fait, qui n'était pas suffisamment portée. L'aspect réactif des personnages, je pense que c'est voilà, leur côté très authentique, très sincère. Mais je crois que ce qui est aussi important, c'est que quand j'entends ça, aujourd'hui aussi, moi je vais publier mon prochain texte qui s'appelle « Ici commence la Terre » à la rentrée littéraire l'année prochaine aux éditions Elizade. Et je suis aussi admiratif des éditions Elizade et de certaines maisons d'édition qui font ce travail-là, parce que c'est très très compliqué aussi de parler de la Palestine aujourd'hui, parce que, encore une fois, ce sont des positions qui braquent, alors que le texte n'est même pas lu souvent. C'est souvent simplement une position de principe. C'est un sujet chaud, qu'on qualifie de chaud. Alors que c'est pas particulièrement... c'est une histoire de vie.
Oui, et puis vous écrivez aussi à partir de votre histoire à vous. C'est ce qu'il faut comprendre quand on lit un texte.
C'est ça. Et c'est vrai que par rapport à cette idée, c'est passionnant, en fait, cette émission dans ce qu'on peut transmettre aussi, nous, en tant qu'écrivains et écrivaines. Est-ce qu'on peut pas? Parce que, effectivement, on n'a pas à avoir non plus cette arrogance de dire qu'on peut transmettre ces histoires-là. On peut pas.
C'est-à-dire, on peut essayer.
On peut essayer de raconter une histoire. Moi, j'ai fait une thèse sur l'empathie. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas s'arracher un bras quand quelqu'un s'est cassé le bras. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est raconter une histoire qui donnerait les mots à cette souffrance. Mais on ne peut pas la ressentir. Et on ne peut pas la raconter parce qu'on est, et il faut le dire, il faut avoir la décence de le dire, on est privilégié. On peut dire tellement de la grande histoire, avec un grand H, avec la petite histoire. Juste une petite anecdote, par exemple, qui le cas d'une autre femme de ma famille, qui est ma grand-mère paternelle, qui, pour payer l'université à ses enfants quand elle était au Liban, c'était ma grand-mère libanaise, faisait du tricot la nuit pour vendre en cachette ses tricots ensuite et payer une partie des études de ses enfants, parce que les femmes ne pouvaient pas travailler. C'était la honte dans un village que les femmes travaillent. Je veux dire, avec une histoire comme ça, on n'a pas besoin même d'employer le mot féminisme, en fait. On dit tout du...
Le féminisme, parlons-en justement. On sent que, Maya Brahmi, vous êtes assez remontée contre les féministes dans votre texte. Vous écrivez « Parce que le déni et la lèpre de la société qui gangrène jusqu'au cerveau des féministes, ces féministes dont tu pensais partager les valeurs et les combats, mais qui aujourd'hui te piétinent allègrement sur le pavé comme les autres. »
Je le constate. Je constate qu'elles sont incapables.
C'est à géométrie variable.
Oui, mais elles sont incapables de battre. C'est pas les. Non, pas toutes. Heureusement, il y a les universalistes, comme on dit, les universalistes. J'ai invité à un salon Femmes Solidaires la semaine dernière. Elles sont merveilleuses. Elles ont même arrêté de manifester.
Mais c'est antiféministe de ne pas être universaliste, non ?
Comment ?
C'est pas féministe de ne pas être universaliste.
Ah oui, effectivement, j'ai aussi écrit un livre sur Gisèle Halimi, elle pensait que le féminisme viendrait autant des hommes que des femmes, vous voyez. Mais il faut croire qu'il y a des femmes qui... En fait, tout devient une histoire de racisme et de... on se trompe de combat. Je pense que certaines féministes se trompent totalement de combat et qu'il faut garder les yeux rivés vers l'être humain.
Je suis absolument d'accord. Alors moi, j'aime pas bien ce mot féministe. Je vois pas la différence entre les hommes et les femmes. Je connais des hommes qui se battent pour leurs femmes, qui sont féministes. Enfin, Jade, il écrit, il dit « je » et c'est quatre femmes. Donc, en fait, pour moi, je ne le ressens pas. Et pourtant, j'ai eu une jeunesse dans les années 80 où j'ai été bafouée en tant que femme. Mais pour moi, c'est vraiment l'humanisme. Et je voulais aussi dire que par rapport à la fiction, donc le roman historique, c'est une fiction sans en être une, parce que les faits historiques sont vrais. Et à travers certains personnages... On vit les choses. C'est-à-dire que l'auteur et donc le lecteur vit les choses de l'intérieur. Il s'agissait de vivre à l'intérieur, de l'intérieur, le siège de Jérusalem, et le massacre. Et donc, voilà. Donc,
de toute façon, cette question de la fiction, elle est vaste. Parce qu'à partir du moment où on choisit, même quand on ne fait pas de fiction, c'est des questions qu'on pourrait en parler.
Je le remets entre parenthèses.
On pourrait en parler pendant des heures.
Restons dans le féminisme.
Jadilal, non, c'était très intéressant. Jadilal, vous avez été lue par un de nos libraires, vous aussi. Il s'agit de notre libraire suisse, Alexandre Dimitrievitch, de la librairie Delphica à Genève. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lilia.
Vous avez lu le livre de Jadilal et vous avez adoré.
Oui, c'est pas un secret à Delphica, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. J'ai traversé quasiment un siècle de vie familiale dans une ambiance qui oscille entre tragédie collective et détermination individuelle. Et c'est en à peine plus de 200 pages que vous avez réussi le pari de donner vie à plusieurs générations de femmes avec beaucoup de spontanéité. J'ai particulièrement apprécié les habitudes et les comportements qui se transmettent d'une génération à l'autre. Il y a la démarche, il y a les yeux, les dictons qu'on se transmet, ce caractère qui passe aussi d'une génération à l'autre. Et dans tout ça, j'ai été aussi touché par le statut des hommes, grand absent du roman, qui sont dans votre texte, j'ai l'impression, comme peut-être à la vie, trop occupés aux affaires politiques, à la guerre ou à la défense de leurs terres. Et c'est dans ce contexte qu'ils ne parviennent plus à vivre avec leurs proches. Ils sont là, ils doivent se défendre dans l'espace public, alors que votre roman se déroule pour une grande part dans l'espace domestique. Et c'est dans ce cadre que chacune de vos protagonistes, femmes ou enfants, et je dois dire que vous avez un don pour faire vivre les enfants dans votre texte, maintient une sorte de verticalité que j'ai trouvée farouche, alors que tout devrait les pousser à l'anéantissement. Et c'est vraiment ce que je retiendrai de votre texte.
Et je crois que ce qui vous a touché aussi, Alexandre, c'est une certaine prise de distance du narrateur.
Oui, Lilia, ce qui m'a frappé tout au long de ce texte, c'est cette distance qui s'instaure entre les événements traumatiques successifs et la conscience qu'en gardent les personnages. Les femmes, elles vivent, par exemple, à côté d'elles-mêmes, elles s'éloignent de l'émotion dans votre texte. Elles vont traverser la guerre, l'exil et la violence avec un acharnement et un courage assez spectaculaire. Et je dirais que aussi que ce que vous avez réussi admirablement, Jad, c'est à faire circuler cette grande histoire dans la petite. Et ça m'a rappelé ce texte d'Annie Ernaux, Les années, un texte auquel je reviens souvent, qui nous parle des grands événements qui ne sont jamais détachés de la mémoire du quotidien. Et tous ces événements, ils traversent donc cette chambre d'enfant, ce repas de famille, ce départ précipité aussi. Pour finir, vous nous rappelez que les Palestiniens et les Palestiniennes n'ont jamais eu le luxe d'être les personnages principaux de leur propre vie et qu'ils sont toujours assignés à l'étrangeté, toujours à réajuster leur existence, que ce soit au Liban ou en Palestine. Et en nous offrant cette lecture par petits chapitres, je dois dire que vous avez réussi à faire un magnifique roman de transmission très accessible, une vraie prouesse pour votre premier roman.
Merci beaucoup, Alexandre. Vous aviez une question pour Jadilal ?
Oui, j'évoquais cette mise à distance entre les événements et leurs ressentis. Vous l'avez peut-être aussi un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais que pouvez-vous me dire sur cette mise à distance qu'il doit exister aujourd'hui entre celui que vous êtes devenu et ce premier texte qui est paru il y a déjà quelques années ?
En 2018.
Oui, c'est ça, en 2018. Merci beaucoup pour vos mots, ça me touche énormément. Merci d'avoir pris le temps de lire ce texte et de la justesse de ses propos.
Il y a une phrase, les Palestiniens n'ont jamais eu le luxe d'être les personnages principaux de leur propre vie.
Oui, je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, pour nous, les Palestiniens, c'est aussi la question de quelle histoire on va raconter. Parce que, en fait, il faut pouvoir la raconter, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, matériellement. C'est-à-dire que comment on fait pour que faire sortir un récit de vie de la Palestine. Moi, je parle d'ici, et je ne parle pas depuis la Palestine. Et c'est vrai que c'est...
Et donc,
c'est
vous parlez du passé.
Oui, mais c'est vrai que c'est insuffisant. Il faut qu'on entende des Palestiniens parler de la Palestine et de ce qu'ils vivent. Donc, il y a une urgence par rapport à ça. Pour répondre aussi à votre question, Alexandre, je pense que le recul, il est lié, je pense, à quelque chose. Je ne sais pas si c'est féministe ou pas. En tout cas, ça s'est vraiment présenté dans ma famille, auprès des femmes particulièrement. C'est que malheureusement, elles n'ont pas le temps de l'introspection. Oui. Ce qui est aussi présent en Palestine, et c'est affreux. Et les femmes de ce roman vivent dans une situation telle qu'elles n'ont pas le luxe de se demander ce qu'elles éprouvent, parce qu'il faut avancer, parce que la vie est en danger, et que c'est elles qui ont la charge, non voulue, donc il n'a pas la liberté, de porter la vie, par exemple, de ramener les enfants, de mettre les enfants à l'abri, dans le privé. Quant à moi, bon, il faudrait que je fasse une thérapie pour vous répondre sur ce qui s'est passé depuis 2018, mais je pense que la distance, elle s'est faite notamment, et plus particulièrement, mais bon, il faudrait en parler plus longuement, avec le Liban, et que le rapprochement s'est fait plus avec la Palestine. Je me sens beaucoup plus proche du personnage de Naïma, par exemple, quand je relis mon texte aujourd'hui, que de celui d'Emma, qui est plus libanaise que palestinienne.
Voilà. Pourquoi en deux mots ?
L'histoire, parfois, nous donne une identité. Voilà, et je crois que moi, depuis le 7 octobre, je ne me suis jamais senti aussi palestinien. Je crois qu'on se sent quand on sent qu'une partie de soi est en train de s'effacer, ou alors d'être tuée, ou d'être
désengagée. Et comment on fait pour ne pas sombrer dans justement le repli identitaire, qui est quand même aussi un risque aujourd'hui. On le voit, d'ailleurs la preuve, c'est compliqué de faire des émissions, c'est compliqué de parler, parce que tout le monde se replie. Ouais. Comment on fait pour ne pas tomber là-dedans?
Je pense que il faut affirmer une identité. Se replier, l'ennui, c'est qu'en fait, on ne la communique plus, son identité. On la communique plus à ceux qui ne l'ont pas. C'est là où je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur soi, qui n'est pas évident. Moi, je juge personne. C'est vrai que parfois, c'est difficile, en fait, de faire ce travail-là. Ça peut prendre du temps, pendant très longtemps. Moi, j'ai pas réussi à parler, par exemple. J'étais tellement mal que j'arrivais pas à parler. Mais je pense que quand on arrive à se dire que cette part de moi qui est attaquée, en fait, il faut que j'en parle aux autres pour qu'ils sachent ce que c'est qu'être palestinien aussi.
Ce sera l'objet de votre livre, si je comprends bien.
Je pense qu'ici commence la Terre, en tout cas c'est une des questions fondamentales. Ouais.
Merci Alexandre, on poursuit cette conversation dans quelques instants avec le conseil lecture de la semaine. Mais d'abord on écoute Ta part de Gaëtan Roussel.
Ta part de savoir, d'oublier, de revoir. Ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. Ta part de crier, de contredire, oui de t'enfuir. Ta part de vivre le meilleur comme le pire. Ta part de vouloir, de recevoir, de réussir. Ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire. Ta part entière, ta liberté, tendre et chère. Part d'ombre, de lumière, d'idées sombres. Ta part de virage, de ligne droite, tes deux visages. Ta part d'ange et de démon, ah oui, ta part change. Ta part de raison, ainsi soit-il, quelque chose de spécial. Ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Nathalie Cohen, Maya Brami et Jade Hilal. C'est l'heure du coup de cœur de la semaine.
Au livre, Etc. Lilia Hassel.
Et mon conseil, c'est votre livre, Maya Brami, un tombeau littéraire non fictionnel consacré aux 320 femmes assassinées le 7 octobre 2023. Vous dressez d'ailleurs la liste de ces femmes à la fin. C'est un texte qui m'a retournée. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez hésité sur la forme? Parce que vous montrez dans le texte plusieurs possibilités d'écriture. On sent qu'il y a de la poésie. On sent des tentatives. Est-ce que la forme vous s'est imposée tout de suite?
C'est une bonne question. Au départ, je pensais en écrire un long poème. Au départ, je pensais même peut-être faire un livre d'artiste avec Joseph Yosef Yaakov Dadoun, que j'avais rencontré juste avant. C'était ça l'idée, peut-être même de faire une exposition. Lui, il travaille autour des fleurs. Il a grandi entre Ofakim, qui a été complètement détruit le 7 octobre, et la France. Et l'idée, c'était peut-être de rendre hommage à ces 320 femmes, et de lui qui peigne 320 fleurs, et que moi, j'écrive des poèmes. Et donc, au départ, j'ai écrit un poème, et je me suis dit que ça n'allait pas, parce que je ne faisais pas preuve. C'est-à-dire que pour moi, il était très important d'être dans la poésie, et de faire ressentir, de mettre des mots sur l'horreur, et l'effroi que je ressentais les mois passants, mais je voulais aussi faire preuve, je voulais que ça reste, je voulais faire mémoire, je voulais mettre des faits, et que ça puisse rester pour plus tard. Et c'est là où je me suis aperçue que j'entrais un petit peu dans cette littérature juive qui a commencé justement au moment des pogroms, où les juifs ont commencé à se rendre justice eux-mêmes et à faire mémoire en écrivant ce qui leur arrivait pogrom après pogrom, c'est-à-dire la liste des faits, qui était mort, comment, qui restait en vie, qui était venu, pour essayer aussi de plaider leur cause auprès des autorités. Et je me suis dit, en fait, j'entre dans cette espèce de littérature qui est là pour rester, qui est là pour faire en sorte, en tout cas, que toutes ces femmes ne soient pas mortes en vain. Parce qu'elles sont mortes un petit peu deux fois. Elles sont mortes sous les coups du Hamas. Et elles sont mortes parce qu'on n'a pas voulu les voir. On les a réduites au silence. Et ce sont ces femmes, ces 320 femmes, mais ce sont les femmes aussi depuis la nuit des temps. Et ce sont des femmes actuellement qui meurent même en France sous les coups de leur mari. Donc, pour moi, c'est une façon de rendre visible et de rendre visible et d'allumer une flamme pour la femme avec un F majuscule. Et au travers cette femme, évidemment, la flamme de ces 320 victimes israéliennes.
Merci, Maya Brami. J'aimerais, pour finir cette émission avec vos mots. Dans la torpeur de l'appartement, ton cœur affolé répondait à d'autres cris, ceux des milliers d'enfants palestiniens sous le feu des bombes, piégés sous les décombres, affamés, ceux des enfants israéliens sans toit depuis le 7 octobre qui ont vu leur famille, leurs voisins tomber sous les balles du Hamas ou être kidnappés devant leurs yeux. Parce que, d'une certaine façon, un écrivain n'est rien d'autre qu'un oiseau qui survole des scènes de vie, de crime, se pose parfois sur un balcon, le bord d'une fenêtre ouverte, intrigué par ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, je trouvais que c'était une belle manière de conclure cette émission. C'est peut-être pas la littérature qui nous sauvera, mais en tout cas, ça permet de débattre et il faut débattre et il faut pouvoir discuter ensemble. Merci Maya Brami, Nathalie Cohen et Jade Hilal d'avoir été les oiseaux de cette émission.
Merci Lilia.
Merci beaucoup. Merci
d'avoir fait vibrer ces voix de femmes qui traversent l'histoire. Je rappelle le titre de vos livres, Maya Brami, Jusqu'à sentir battre leur cœur aux éditions de l'Observatoire, un livre de deuil et de lumière qui redonne une humanité et un nom aux femmes assassinées le 7 octobre 2023. Je recommande aussi votre roman, Nathalie Cohen, L'Or de Jérusalem, aux éditions Flammarion, un polar historique passionnant qui nous plonge dans la Judée du 1er siècle et éclaire avec érudition nos blessures contemporaines. Merci pour cette traversée qu'on ne peut pas lâcher quand on a commencé. Et enfin, Jade Hilal, Des ailes au loin, aux éditions Elisade, une fresque familiale portée par 4 générations de femmes palestiniennes, une voix nuancée, tendre, puissante, qui interroge la mémoire de l'exil. Et je précise, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous signez aussi une nouvelle, Ralas, dans le recueil collectif Sur ces terres, il y a ce qui mérite vie, sorti au Seuil en octobre dernier. Avant de terminer, un mot pour mon amie Anna Souline, fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix, qui réunit des femmes israéliennes et palestiniennes pour la paix et qui vient de recevoir le prix Femmes d'Influence 2025. Bravo Anna. Et merci au libraire Mike Vienno, Alexandre Dimitrievitch, ainsi qu'à mon équipe du jour, Anaïs Reinhardt à la réalisation, Loïs Moreau à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle que Livre, etc. est une coproduction de la RTBF, de la RTS et de Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.